Matthieu 28, c'est le dernier chapitre. Matthieu 28 et le verset 18 à 20. Jésus s'approcha des disciples et leur dit, leur parla ainsi. Toute autorité et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vais le relire, parce que c'est une parole de Jésus, qui est l'envoi des disciples en mission, et ensuite l'évangile se termine. Il y a plus, c'est le dernier verset qui nous est laissé du témoignage de Matthieu de la bonne nouvelle de Jésus. Jésus s'approcha et leur parla, en disant ainsi, « Toute autorité et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Seigneur, bénis ta parole, et qu'elle puisse transformer nos cœurs et nous aider à être fidèles. Amen. Voilà, ce matin, on va parler de la mission et des conditions, les trois règles d'or de la mission. Il y a trois règles d'or pour la mission du disciple. Vous connaissez maintenant un petit peu ces trois cercles, hein, qui sont les cercles de la destinée, de la mission et du devenir, hein, de notre avenir, du devenir. Ce sont ces trois cercles, ces trois pôles, sont issus de la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Fils, il s'est engagé dans la mission de rédemption, de rachat de l'humanité. Il a accepté la mission que le Père lui a donnée, hein, qui définit les destinées, le destin voilà, de l'humanité. Et le devenir, c'est le Saint-Esprit qui l'accomplit. La puissance du Saint-Esprit accomplit ce que le Père a décidé de sa propre souveraineté. Ainsi, nous-mêmes, nous voulons suivre ces trois éléments dans notre vision d'Église. Et la mission est quelque chose, effectivement, qui est de notre responsabilité, alors que le destin et le devenir, c'est le Seigneur qui nous l'accomplit en nous, qui, avec la collaboration, avec notre collaboration. Mais la mission est très importante et il y a trois règles d'or que je voudrais tirer de ces trois versets que nous avons lus. Ça s'appelle la grande mission. Hein. En anglais, ça s'appelle la commission, mais on n'aime pas trop traduire la commission en français pour des raisons évidentes de connotation. Mais la grande mission, je pense que ça passe. Donc, on ne va pas dire la grande mission de Jésus à ses disciples et par extension à l'Église, bien sûr, hein, qui est le rassemblement des disciples. Donc, la grande mission. On voit que dans ce passage que nous venons de lire, il y a une relation très étroite entre le maître qui appelle et qui envoie. Puisque là, Jésus, qui est celui qui est ressuscité à la fin du verset de Matthieu, Jésus ressuscité du tombeau, il a vaincu la mort, il est allé vers le Père et avant, il donne bien cette mission, cette charge, cet envoi de ses disciples. Et on a cette relation très étroite entre le maître et le disciple. Et le disciple, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est supposé de faire, le disciple? D'obéir à son maître. C'est le principe du discipulat. Un disciple, c'est celui qui obéit au maître, parce que c'est le maître qui sait et le disciple qui apprend. Alors, toute activité d'un disciple de Jésus qui ne découle pas d'une passion et d'une loyauté envers son maître est voué à l'échec, au découragement et à des frustrations. Voilà, donc vous avez déjà une première règle d'or, hein, c'est d'avoir une passion pour son maître. Si vous avez un maître que vous voulez suivre par obligation, par obéissance, ça ne va pas durer longtemps. Hein, vous allez avoir une frustration, un découragement. Donc avant d'envoyer ses disciples dans le monde pour évangéliser, Jésus a souligné une vérité importante, oubliée, négligée par bon nombre de ses serviteurs qui n'en ont pas saisi l'obligation. Et il dit « Toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez donc !» Ce « allez donc », on va l'analyser tout à l'heure, est une conséquence donc du pouvoir et de l'autorité que Jésus a reçu sur toute chose, dans le ciel et sur la terre. Donc le succès de la mission, hein, puisqu'on parle de mission, hein, mission impossible, vous connaissez tous les films et tout ça, c'est de réussir la mission. Hein. Vous êtes tous décidés à réussir votre mission. Voilà, on n'aime pas l'échec et le Seigneur ne nous envoie pas non plus à l'échec, au casse-pipe. Il nous envoie pour réussir la mission. Donc, une des règles d'or, donc il y en aura trois, c'est pour réussir dans sa mission, dans le ministère qu'en tant que disciples nous recevons, et il dépend de la qualité de la relation personnelle avec son maître. Autrement dit, l'amour qu'il veut manifester en faveur des âmes, puisque la mission de Jésus, hein, c'était de sauver l'humanité, de sauver des âmes. Okay. Notre mission, c'est de participer à ce salut. Okay. Eh ben, pour réussir à sauver des âmes, il faut aimer, avant d'aimer les âmes, il faut aimer Jésus. Parce que les âmes, les hommes, les pères, les femmes, le sentiront. Et on n'évangélise pas par obligation, on n'évangélise pas par devoir de faire parce qu'on a reçu une mission. L'esprit, l'attitude, c'est d'abord d'avoir l'amour pour les perdus, mais c'est Jésus qui l'a eu avant nous. C'est pour ça qu'il a accepté la mission. La passion des âmes dans un ministère dépendra entièrement de la passion que nous avons pour Christ. Et nous n'avons aucune peine à parler de quelqu'un que nous aimons vraiment, parce que la parole dans Matthieu 12 dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc parler de Jésus, parler de la bonne nouvelle, si nous n'aimons pas Jésus, ça se verra. Ça se verra que nous le faisons pour d'autres raisons. De plus, si nos paroles proviennent de notre cœur, elles interpellent les auditeurs. Les auditeurs seront interpellés, voilà, écouteront davantage. Et elles seront l'expression de l'amour de Dieu que le Saint-Esprit déverse dans nos cœurs. C'est Romains 5,5 et Galates 5,22 qui le dit. Alors, les trois règles. La première, vous l'avez déjà compris, la première règle, c'est quoi? Hello? Trois règles d'or pour la mission. La première règle, c'est Rémi, j'ai entendu. Non, tu avais dit autre chose. C'est la passion. Voilà. Soyez passionnés. Passion pour Jésus. Ok. Et là, qui sont passionnés pour Jésus? Allô? Vous êtes passionné pour Jésus? Ouais. Il faut que cette passion augmente. Le disciple ne peut efficacement témoigner de son amour pour les âmes que s'il a d'abord lui-même une passion pour Jésus. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Hudson Taylor? Yes. Tu peux nous dire qui il est?
Alors, c'était un missionnaire qui est parti, je crois, des États-Unis pour la Chine.
Non, d'Angleterre. De Londres. D'ailleurs, ils l'ont saqué à Londres. Bah oui, parce que arrivé en Chine, il s'est pas déguisé. Il a pris il a fait des tresses et des machins comme ça pour être accepté. Et ça, non, ils n'ont pas accepté que, voilà, on change de, voilà, comme ça, on doit rester british, quoi. Voilà. Enfin, bref, c'est tout ça.
Donc.
1852. Ah, bien. Il y a un film, c'est ça? D'accord. Mais je pense qu'il doit y avoir un film, non? Voilà. Ok, merci Isabelle. Donc, Hudson Taylor, 19e siècle, 1852, voilà, qui est parti en Chine, qui avait une passion pour les âmes, pour les Chinois. Et il a vraiment transformé voilà, cette nation. Hein, et il a marqué vraiment son temps par cette mission qu'il a fait en Chine. Et voilà ce que dit Hudson Taylor. Enfin, voilà, c'est une petite histoire hein, sur Hudson Taylor. La première condition pour devenir un bon missionnaire, hein, c'est la question qu'on lui a posée. C'est-à-dire un disciple, est-ce qu'il doit aimer les âmes? Alors, quand on lui a posé cette question, Hudson Taylor a réfléchi avant de répondre. Et il a dit non. L'exigence prioritaire pour le disciple est qu'il aime Jésus. Donc ça vient de quelqu'un qui a réussi dans sa mission. Hein. Et donc on peut l'écouter. Et s'il aime Jésus, il aimera les âmes. Voilà la réponse de Hudson Taylor. Cet amour pour Christ sera donc comme une source intarissable. Hein, parce que vous voyez, pour aimer les âmes, il ne faut pas l'aimer un jour, deux jours, trois jours. Il faut l'aimer toute la mission. Et ça, il faut que ce soit comme une source qui vienne tous les jours. Parce que vous savez, les âmes... Il n'y a pas que des bonnes choses, hein. Vous êtes souvent déçus des âmes. Il y a beaucoup de choses qui ne vous montent pas au sommet, voilà, de la joie tous les jours. Mais quand c'est le Seigneur, eh bien, il renouvelle. C'est une source qui vous garde dans cette mission jusqu'au bout. C'était le cas de Hudson Taylor. Donc, cet amour qui est une source intarissable dans la vie du disciple, qui le motivera pour continuer l'effort d'évangélisation. Et c'est ce qui l'a motivé aussi pour contrer. On lui a coupé tous les vivres. Hein. Il était l'église anglicane. Tout. Il a dû se débrouiller là-bas, en Chine. Hein. Alors qu'il était envoyé par la mission, je ne sais plus laquelle mission. Ah, je crois que c'est la mission. La WEC, je crois. C'est la WEC. Qui a un motto dont je ne me rappelle plus. Michel s'en rappellera. Qui était le premier gardien qu'on avait ici, qui était de la WEC. Alors, cela signifie que la mission confiée par Christ ne pourra jamais se concrétiser effectivement sans amour ardent pour le Sauveur et une communion avec lui personnelle et prioritaire pour le Seigneur. Car c'est lui et lui seul qui détient toute autorité dans le ciel. Oui. Non, vous avez une petite... voilà. Voilà, sinon on a une petite pièce là-bas qu'on a fait exprès. Donc c'est lui, lui seul, qui détient l'autorité et le pouvoir. On l'a lu tout à l'heure. Et ce pouvoir, cette autorité et ce pouvoir, c'est pour toucher les cœurs et pour libérer les captifs. C'est seulement dans cette dépendance constante avec le Seigneur que nous pourrons accomplir la mission qui nous est confiée. Parce que nous avons aussi une mission. Ce n'est pas uniquement Hudson Taylor en Chine. Nous avons la mission pour notre génération, pour notre, voilà, pour nos contemporains, là où nous sommes placés, à évangéliser. Donc cette constante... dépendance, elle dépend de notre faiblesse. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, vous connaissez bien ce passage, mais c'est bien de le relire. Dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 9, il est dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. » Ça, c'est le témoignage d'un autre personnage, Paul, qui a été envoyé en mission. Et lui aussi a réussi sa mission. Et en plus, ce qu'il dit, c'est parole de Dieu. C'est une parole qui vient du Seigneur et qui dit « Ma grâce te suffit et ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc il ne faut pas avoir peur d'être faible. Non pas que nous devons chercher à être faible, mais à accepter la faiblesse que nous avons, que nous sommes. Déjà, en tant qu'humains, nous sommes faibles, hein, nous allons mourir. Hein, c'est une faiblesse quand même qui est importante. Et on ne peut pas prévaloir d'être super fort en étant dans cette condition. Mais le Seigneur dit « ma puissance se manifeste dans la faiblesse ». Ça, c'est une autre règle d'or qu'on abordera ce matin, mais qui est une règle du disciple d'accepter l'humilité. C'est dans l'humilité que le Seigneur manifeste sa puissance. En outre, les paroles de Jésus, quand il déclare « Faites des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », confirme la nécessité de la priorité d'une communion du disciple avec son maître, avec l'expression « au nom d'eux ». Au nom d'eux, ça veut dire en communion avec ou être près de ces trois personnes de la Trinité de Dieu. En d'autres termes, le chrétien qui se faisait baptiser à l'époque du Nouveau Testament, mais aussi aujourd'hui, déclarait publiquement son attachement et son profond amour pour Jésus et sa détermination de devenir l'un de ses disciples pour apprendre de lui et lui obéir dans tout ce qu'il lui commanderait. Un disciple n'est plus libre, il a un maître. Et c'est un maître pour toute la vie. C'est là le disciple. Au nom d'eux signifie aussi appartenir à ce Dieu qui est Père, Fils, Saint-Esprit, comme on l'a vu tout à l'heure, et se placer sous sa protection, sous son autorité. Et quand on est sous l'autorité de Dieu, eh bien, aucune autorité ne peut renverser cette autorité et nous sommes gardés. C'est pour ça qu'il a dit, vous serez avec moi et je vous tiendrai la main jusqu'à la fin. Personne ne peut vous retirer de ma main. Nous sommes sous l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit parce que nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors avant d'aller et de faire des disciples, il faut d'abord nous-mêmes que nous soyons disciples. On ne peut pas faire des disciples si nous ne sommes pas des disciples. De toute façon, ceux à qui nous adressons, ils verront très bien que notre discours n'est pas vrai. On ne peut pas apporter aux autres ce qu'on n'a pas reçu et ce qu'on n'a pas vécu. Parce qu'un disciple, voilà, on a des expériences de disciples. Expériences de victoire, d'échec, on a des expériences, voilà. Et cette expérience parle quand on parle à quelqu'un qu'on veut parler de discipulat. Un disciple aime Jésus-Christ, son Sauveur et son Seigneur, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Et parce qu'il aime son maître, il suit son enseignement, son style de vie. Il adopte l'attitude du maître. Vous voyez, on devient une sorte de clone. Hein, mais un clone dans le bon sens, puisque c'est le nouvel Adam. L'ancien Adam, on est un clone de l'ancien Adam. Hein, celui qui pêche, celui qui n'arrive pas à ce qu'il veut, etc. Mais quand on est disciple de Jésus, on devient, entre guillemets, un nouveau clone. C'est-à-dire le maître déteint sur nous. Et c'est une bonne chose. C'est ce qu'on appelle marcher par l'esprit et non par la chair. Donc, il apprend de lui, il lui obéit. Il cherche à l'honorer par ses paroles, par sa vie. Il est enthousiasmé par sa personne et son message. Est-ce que vous êtes enthousiasmé par Jésus? Il faut se laisser enthousiasmer par Jésus, et pas seulement dans ce qu'il a fait dans le passé, mais dans ce qu'il fait aujourd'hui. Et il désire que le monde... Nous désirons que le monde le connaisse, parce que c'est un maître qui est merveilleux. Être un disciple de Jésus c'est l'aimer, l'écouter, lui obéir, s'asseoir à ses pieds, prendre du temps, lui parler, suivre son exemple et chercher à lui ressembler en toutes choses. C'est même être prêt à donner sa vie pour lui dans des cas extrêmes, comme ça a été le cas des disciples de son époque, mais aussi aujourd'hui, dans certains pays, où voilà, la vie est réclamée lorsque on adhère à Jésus. Vous serez mes témoins. En grec, témoin, ça veut dire martyr. Une plaque martyr, c'est, vous voyez, quand on fait quelque chose en métal, on utilise une plaque martyr parce que on veut, par exemple, quand on tape, on veut peut-être pas abîmer le truc en dessous. Donc on met une plaque martyr et on tape dessus. Et ensuite, après, le martyr, on le jette. Et la plaque en bas, elle est, voilà. Donc, ça nous renvoie à l'idée que, voilà, nous acceptons des coups, hein, pour que les âmes puissent être sauvées, pour que les âmes puissent venir. Vous voyez, il y a la notion de donner sa vie. Et Jésus a dit, on ne peut pas être son disciple si on n'accepte pas de livrer son ego à la croix et de mourir à notre, voilà, notre ego, notre égoïsme. Être disciple, c'est avoir une communion, une relation avec Dieu qui dure toute la vie. C'est pour ça que la parole de Dieu dit « regardez leur fin ». Pas leur début, mais leur fin. Parce que la fin, vous avez vécu toute une vie qui n'a pas été facile. Parce que le martyr, c'est pas le témoin, c'est pas que de la facilité, mais on a beaucoup de joie à servir ce maître qui, malgré tout, a vécu la même chose que nous dans ce monde. Difficile dans ce monde où il y a les ronces, les épines, où il y a les oppositions. Mais il y a la joie de rentrer dans une nouvelle dimension de son amour. Ce n'est pas que, l'apôtre Paul dans Philippiens 3 dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, et où l'apôtre reconnaît qu'il n'a pas encore remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Vous voyez, cette image est très parlante. L'apôtre Paul ne se targue pas d'être arrivé, et pourtant, quand on voit ce qu'il a fait, on pourrait dire « waouh ». Non, c'est pas « waouh Paul », c'est « waouh Jésus ». Mais Paul, voilà, il se présente comme un disciple qui est en train de courir. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont dans l'Église depuis pas mal d'années savent que cette formule qu'on utilise, on est tous en train de marcher. On est tous en train, on est tous en marche. Moi le premier, Michel également, voilà, on n'est pas... C'est vrai qu'on a couru un peu avant vous, vu notre âge. Je me suis converti à 20 ans et j'en ai 77 années. Voilà, donc j'ai couru, mais je continue à courir, parce que la course n'est pas finie. Hein. Donc on court, et l'apôtre Paul court dans cette course, mais il sait qu'elle n'est pas vaine, mais qu'il a saisi Jésus-Christ pour tâcher de le saisir. Vous voyez, donc c'est cette humilité de tâcher de le saisir. Paul qui dit ça. Toute activité dans l'évangélisation, puisqu'on évangélisait, c'est apporter la bonne nouvelle, pour être satisfaisante et avoir l'approbation de Dieu, doit spontanément jaillir dans des débordements d'amour. Donc prions pour cette première règle, que le Seigneur nous fasse déborder de son amour. Et c'est pourquoi il y a tant de résultats dans les réveils. C'est quoi un réveil? C'est on découvre l'amour de Dieu, on découvre l'amour de Jésus. Parce que cet amour inonde nos cœurs. Il nous saisit tellement, on sent sa présence, voyez-vous, de manière surnaturelle, de manière exceptionnelle. C'est pas que l'amour est pas là dans des temps de non-réveil, mais dans des temps de réveil, effectivement, il y a cette chaleur qui brûle. Moi, quand j'ai rencontré Jésus, j'avais un ami qui... Parce que j'étais catholique, et j'avais un ami qui était catholique aussi, et puis lui, il a rencontré le Seigneur, mais je ne savais pas. Et quand il m'a parlé de Jésus, Je lui ai dit, mais quand ça se fait que tu as changé, là, j'ai vu qu'il n'était plus lui-même, parce que je connaissais par cœur. J'ai dit, mais ça, tu réagis plus pareil. Elle dit, moi, là, j'ai rencontré Jésus. Je lui ai dit, mais comment il faut faire? Bah, tu lis ta Bible, et tu pries. Donc, j'ai lu ma Bible, j'ai prié. Ben alors là, une chaleur qui est venue, mais qui a duré des mois et des mois, la puissance de Dieu qui m'a transformé. Je pensais que la Bible devenait brûlante, quoi, des flammes qui sortaient, quoi. C'était fou, quoi. C'était la passion de Jésus qui m'envahissait, quoi. Puis autour de moi, il y avait tout le bazar, pour dire autre chose. Et je voyais rien, je vivais plus que pour cette parole où des flammes sortaient, qui me brûlait quand je la lisais. Et c'est un temps de réveil. Je ne l'ai pas revu depuis. Ça, c'était au début de ma conversion, pendant 3-4 mois. Mais voilà, je sais que la flamme du Seigneur doit nous habiter pour que nous soyons des vrais évangélistes. D'ailleurs, comme j'étais en première année des arts et métiers là, à Chalon, on était 110 par promotion, voilà. Et comme il y avait 3 promotions, vous voyez, ça fait 400, plus le staff des profs et tout ça, et il y avait un évangéliste de Paris, du GBU, qui était venu, parce que je pensais qu'en dehors des catholiques, il n'y avait rien qui existait, parce que j'avais interdiction de m'intéresser à d'autres chrétiens. Et il m'a dit, écoute, on peut venir voilà, faire une soirée d'évangélisation. Je dis, c'est quoi ça? Bah oui, mais on va parler d'évangile. Bon. Je dis, ok. Donc j'ai invité tout le monde. Et tout le monde est venu. Il était 500 dans un amphithéâtre. Et le directeur, le machin, tout le monde était là. Tous les professeurs étaient là. Tous les élèves étaient là. Tout le monde était là. Et on a prêché l'évangile. Pour moi, c'était évident, quoi. Aujourd'hui, on me dit ça, bah voilà. C'est évident. Tout le monde a entendu l'évangile, quoi. Et puis il y a eu incroyable, quoi, des choses fantastiques qui sont passées. Voilà, parce que voilà, quand on a la passion pour Jésus, eh bien rien ne nous arrête. Et Jésus répond à cette foi. Amen. Voilà, donc la première règle d'or, c'est avoir la passion pour Jésus. La deuxième, c'est quoi la deuxième règle? Vous pouvez pas le savoir puisque je vais vous le dire, mais on sait jamais. Quelle serait la deuxième règle d'or pour la mission, donc d'évangélisation, hein, annoncer la bonne nouvelle, être faible, oui, c'est une... Oui, tout ça, c'est des règles, oui. Pardon ? La passion pour les âmes, oui. Mais on en a parlé, hein, elle vient de la passion pour Jésus. C'est la première règle qui amène la passion pour les âmes. Un autre mot ? Pardon ? Alors, je vous dis tout de suite, je m'appuie sur la parole. Hein. La règle, je la tire des versets que je viens de lire. Serviteur. Avant que Jésus dise « Allez, donc » et annoncer, qu'est-ce qu'il a dit ? Tout pouvoir, toute autorité. C'est l'autorité et le pouvoir de Jésus. Oui. Tout est centré sur Jésus, si vous voulez. Hein? Voilà. C'est pas centré sur le disciple, c'est centré sur le maître. Hein? Nous sommes disciples et lui, il est maître. Donc, la deuxième règle, c'est d'être conscient de cette affirmation. Toute autorité, exousia et dynamis, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et heureusement que dans la mission, parce que sinon, c'est une mission casse-pipe, hein. Si Jésus nous envoie en mission sans nous donner l'autorité et le pouvoir, eh ben notre mission est vouée à l'échec. Hein? Nous allons rencontrer des plus puissants que nous, des plus intelligents que nous, des plus voilà dans le monde là, c'est fort. Hein? L'opposition qu'on risque d'avoir et on l'a l'opposition quand on est en mission. Mais il faut se rappeler que toute autorité et tout pouvoir ont été donnés à Jésus. Hello? C'est ça. Une règle d'or qui nous amène dans la mission, c'est de savoir ça. Et regardez l'exemple de Paul et de Silas. Qu'est-ce qu'ils ont fait en prison? Qu'est-ce qu'ils ont fait en prison quand on les a arrêtés? Ils ont chanté. Vous ne pensez pas que c'est parce qu'ils savaient que toute autorité a été donnée? Pierre, quand il a été mis en prison, Qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Et il témoignait de Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les machins, tout, voilà. Parce que rien n'arrête Jésus. Rien n'arrête Jésus. Ce qu'il y a, c'est que c'est pas Pierre qui a ordonné au tremblement de terre de venir. C'est Jésus qui a décidé dans sa souveraineté parce qu'il voulait le libérer. Et ceux qui étaient dans la pièce, ses disciples, ben, ils n'y croyaient pas. Vous voyez la mesure de foi qu'ils avaient dans la puissance de Dieu. Ils entendent Pierre qui toque. Ah, bah, c'est Pierre. Non, c'est un fantôme. Non, c'est quoi ça? Voilà, il lui ouvre même pas la porte, quoi. Vous voyez la mesure de foi dans l'autorité et la puissance de Jésus. Bon, c'est vrai qu'ils l'ont peut-être pas attendu à ce moment-là, mais c'est juste pour montrer que dans la mission, quand nous sommes en mission et quand nous acceptons la mission, il faut que ça soit sûr et solide, que toute autorité et tout pouvoir ont été donnés à Jésus. Dis-le à ton voisin, ta voisine, que ça rentre, que ça rentre. Voilà. Le disciple en mission ne peut exercer un ministère efficace que s'il est conscient. Conscient, ça veut dire conscient. Ça veut dire si moi je dis à Rémi quelque chose qui le déstabilise, ben, il ne faut pas qu'il soit déstabilisé. Il faut que cette conscience soit tellement en lui que quelle que soit la personne, le doute de Descartes, des Français qui vont voilà, te mettre en porte-à-faux, t'atteigne pas. Conscient que toute autorité et tout pouvoir sont sous l'autorité de Jésus. Et c'est pourquoi quand on va vers un malade, ou même un mort, John Dumer était incroyable, c'était une sorte d'ours, d'ailleurs il était barbu, tout ça, d'ours, petit, voilà, puis il priait, au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus, les malades ils sortaient des chaises roulantes, quoi. Parce qu'il savait, connaissait l'autorité de celui qu'il invoquait, voyez. C'est une conscience, plus vous avez conscience de l'autorité et de la puissance de Jésus, moins vous allez parler des démons, des machins, tout ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont forcément liés. Ils sont forcément liés. Et c'est pour ça que je suis très heureux que toute l'Église soit rentrée dans le mystère de la maison d'Élie, parce qu'elle met moins l'accent sur la délivrance que le TQP, qui est très bien. Mais, vous voyez, je préfère mettre l'accent sur la puissance et l'autorité de Jésus, sur sa capacité à guérir, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quels que soient, qu'ils soient psychiques, spirituels, toute autorité lui est donnée. Amen. Et quand j'ai cette foi-là, comme la foi du centenier, qui disait, moi je suis dans l'armée, et mon chef, quand il me dit quelque chose, ok chef, et je transmets, ça passe. C'est ça, l'armée. Mais il a dit, voilà, t'as compris la foi. Et oui, c'est ça la foi. Quand le Père dit au Fils, tu as toute autorité, je te la donne. Ok. Ben, le Fils, ben, tous les démons ont commencé à hurler autour de lui, alors que dans l'Ancien Testament, très peu de démons se manifestent. Très très peu. Pourquoi? Parce que Jésus interpelle la puissance et l'autorité spirituelle. Et Satan a dit, ok, d'accord, je vais y aller et je vais le séduire. Il a succombé, il n'a pas réussi. Parce que Jésus était un disciple hors pair. Il était obéissant à son Père dans les moindres détails. Et là, cette autorité qu'il a reçue, il avait le droit de l'exercer parce qu'il était obéissant. Et l'obéissance, il l'a pris dans la souffrance. Quotation. Okay. On ne l'apprend pas. L'obéissance, on ne l'apprend pas dans la facilité. On l'apprend dans la souffrance. Moi, j'ai appris l'obéissance dans la souffrance. Michel aussi. Et on sait ce que c'est que l'autorité. Et on sait ce que Jésus est capable de faire. Alors, le mot autorité, exousia, hein, qui est l'autorité légitime de commander, hein, Jésus a l'autorité légitime de commander les démons. Les démons n'ont rien à faire. Ils sont rebelles par nature. Ils sont opposés à Dieu. Jésus est venu de la part de Dieu, ils n'ont rien à cirer, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont qu'à obéir. Et quand même Jésus venait, juste même au moment d'ouvrir la parole, ah, ça criait de partout, etc. Il dit non, au nom de Jésus, tu dégages, quoi. C'est juste une parole, tu sors, fini. Tu discutes pas. Et quand on a l'autorité, je ne sais plus dans quelle école biblique, je ne sais pas si c'est Fénat ou ailleurs, il y a cette petite histoire qui me plaît bien, où les étudiants étaient là en train de délivrer une personne, un étudiant. Voilà, ils étaient une dizaine autour, et puis ça faisait une heure qu'ils étaient là, ils n'arrivaient pas à chasser les démons et tout ça. Et puis un petit professeur de l'école là qui passe là un peu comme ça, voilà. Puis il voit ça, et il a compris ce qui se passait. Et puis il a passé comme ça, puis il a dit au nom de Jésus, tu sors. D'un seul coup, paf, le démon est parti. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, il est passé, mais il est même pas approché, il a ordonné que le démon, et puis à distance, il est parti. Vous voyez, ça c'est l'autorité. L'autorité, on sait qu'il est obligé de partir. Il est obligé. Quand on est en contact, en communion avec Dieu, on n'a pas besoin de faire des grands tralala. Au nom de Jésus, tu dégages. Et les démons savent qui est l'autorité. Ils savent qui est l'autorité. Eux, ils reconnaissent si on est en contact avec Dieu ou pas. Et c'est toute la différence entre ceux qui apprennent et ceux qui, à un certain âge, c'est un monsieur assez vieux, qui a connu beaucoup d'expériences, et simplement, tac, il prend position contre le démon qui parle. Alors tout l'évangile de Matthieu met l'accent sur l'autorité de Jésus. L'évangile de Matthieu était écrit pour les Juifs, et il parle du royaume, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Il parle du royaume des cieux, parce que on n'a pas le droit de prononcer le mot de Dieu chez les Juifs, mais c'est la même chose. Et donc le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Dieu règne. Et il règne au travers de son Fils, jusqu'à ce que toute chose soit accomplie, et le Fils va rendre le royaume à son Père, enfin l'autorité à son Père, duquel il a reçu cette autorité. Jésus, dans Matthieu 7, 29, il enseignait avec autorité. Et même les souverains sacrificateurs, les chefs, ont dit waouh, mais il parle avec autorité. Hein, voilà. Il enseignait avec autorité. Il exerçait la guérison en autorité, Matthieu 8. Il avait autorité sur Satan et les mauvais esprits, Matthieu 10. Et à la fin de l'évangile, Matthieu fait remarquer que Jésus a maintenant toute autorité. Et cette autorité révèle une puissance active, une capacité de faire. Non seulement l'autorité, mais le pouvoir. On reçoit le pouvoir une fois qu'on est en autorité. Parce que l'esprit d'Isabelle inverse les choses. Isabelle, elle prend le pouvoir alors qu'elle n'a pas l'autorité. C'est l'esprit d'anti-autorité. C'est l'autorité de son mari. Alors elle ruse, hein, comme Ève dans le jardin, elle ruse en disant à son mari Acab, ouais, tu es trop mou là. Tu vois, le champ là, t'arrives pas à l'avoir, mais t'es nul quoi. Je vais te l'avoir. Hein, je peux y aller? Oui, vas-y. Et voilà. On a toute l'histoire de Nathan. Le champ. Je perds le nom. Nathan ou Nabal? Non, Nathan. Oui, Nabal, ça. Ok, vous verrez dans votre Bible. J'ai pas de mémoire. Hein. Donc, si j'ai pas relu le verset, je ne me rappelle plus. Le champ, vous voyez, qu'il voulait acquérir, c'est comme ça que le problème a surgi, hein, dans la vie de Jézabel, hein, où elle a accusé, contre toute attente, elle a accusé ce brave homme, hein, par des faux témoins et tout ça, pour acquérir le champ et l'a tué. Voilà. Donc vous voyez, l'esprit d'anti-autorité prend le pouvoir, elle tue quelqu'un, alors qu'elle n'a pas l'autorité. C'est une mauvaise autorité. C'est une anti-autorité. Et ça, c'est l'esprit de Satan qui veut bien reprendre le pouvoir à la place de Dieu, mais voilà, tout ce qu'il fait, c'est détruire, tuer, voler. Donc l'autorité de Jésus est une autorité qui a une puissance active pour guérir, pour sauver, pour délivrer, pour rétablir, pour faire des choses positives. Amen. Pour rétablir le royaume et rétablir l'homme dans sa destinée, celle qui était prévue de toute éternité. Par la, par la capacité de la résurrection et de l'ascension de Jésus au ciel, eh bien, au sein de la gloire, comme dit Jean 17, Jésus est entré pleinement dans sa royauté divine dans le ciel et sur la terre. Et c'est là qu'il a acquis, effectivement, cette position de roi. Il est venu comme serviteur, mais maintenant il est roi. Il est roi sur toute chose. Et nous pouvons l'adorer comme roi, c'est pour ça que dans nos cultes, nous l'adorons aujourd'hui comme roi, même s'il n'est pas reconnu par les hommes comme tel. Mais il va se manifester dans la dernière manifestation comme le roi, comme le lion d'Aslan, que vous connaissez, de Narnia. Cette puissance que Jésus a obtenue et cette autorité sont le fondement et le garant de la mission. Ça, c'est le fondement de la mission, parce que nous évangélisons au nom de Jésus, en son nom, comme lui reçoit l'autorité au nom du Père, nous le recevons au nom de Jésus, du Fils, parce que nous sommes ses disciples, et tout pouvoir lui a été donné. Donc quand nous prions pour un malade, le malade guérit, mais non pas à cause de nos mérites, non pas à cause de notre savoir-faire, non pas à cause, c'est à cause de la foi. C'est pour ça que c'est dans la foi que nous prions. C'est dans la foi que nous évangélisons. C'est dans la foi que, et si rien ne se passe, simplement revenons au Seigneur, recommençons à exercer la foi. Vous voyez, c'est dans l'humilité qu'il faut continuer. C'est pas parce qu'il ne se passe rien qu'il ne faut pas continuer. C'est-à-dire, Seigneur, donne-moi plus de foi. Augmente ma foi. Que je crois que tu vas le faire. Amen. Qui peut sonder cette brève déclaration de Jésus ? J'ai reçu tout pouvoir. L'autorité royale de Jésus inclut le ciel. Et c'est pour ça aujourd'hui, la nouvelle réforme apostolique là, qui prône qu'on est l'armée de Joël, voilà, l'armée de Joël qui va parfaire l'œuvre de Christ et tout ça. Eh bien, elle oublie que aujourd'hui, comme dans le passé, nous sommes encore pécheurs, nous sommes encore jusqu'au retour de Jésus. Et c'est lui qui va changer les choses, c'est lui qui va changer les temps et les circonstances. Mais pour l'instant, eh bien, nous devons rester dans l'humilité et pas faire des combats spirituels contre toutes les puissances du ciel. C'est Jésus qui a l'autorité spirituelle dans le ciel et pas nous. Nous devons juste chasser les démons, c'est déjà pas mal. C'est ceux qui harassent les gens, qui harassent les personnalités. Toute la puissance du ciel est dans la main de Jésus et dans sa disposition, sans aucune contestation. Quand Jésus ordonne, eh bien, les choses s'alignent. Et les disciples que nous sommes doivent être conscients qu'ils sont envoyés dans le monde avec cette autorité, cette puissance. Et aucune armée humaine, ici-bas, n'a jamais eu de telles ressources pour le soutenir. La reine d'Angleterre, je ne sais plus laquelle, je n'ai pas de mémoire, je vous l'ai dit, donc je ne sais plus laquelle, celle qui vivait sous John Knox. John Knox, c'était un Écossais qui était peut-être Victoria, oui. Pardon ? Ah, peut-être. Peut-être. Je ne me rappelle plus. Oui, c'est une Elisabeth quelque part. En tout cas, elle a dit « J'ai plus peur des prières de John Knox que de toute l'armée d'Angleterre. » Oui, c'est catholique, Stuart, je crois. C'est une Stuart. Les Stuart, ils ont vécu à Saint-Germain après, parce qu'ils ont été chassés d'Angleterre. Et c'est Louis XIV qui les a reçus à Saint-Germain. Donc il y a un très gros lien entre la France et l'Écosse à cause du catholicisme, parce qu'ils voulaient renverser l'Angleterre avec le catholicisme, parce qu'ils étaient protestants anglicans. Quoi. Enfin bref, elle a dit « J'ai plus peur des prières de John Knox », ça c'est un témoignage, hein, « des prières de John Knox que de toute l'armée anglaise. » Waouh ! Quand il y a un témoignage comme ça d'un chrétien, c'est un vrai disciple. Hello ? Ça veut dire que ses prières avaient de l'efficacité. Amen. C'est pareil, John Knox était un homme qui était vraiment dans l'humilité et qui savait quelle était sa mission. dans sa génération. Soyons des John Knox et faisons peur à ceux qui ne croient pas la puissance de Dieu. Amen. L'expression de Jésus « allez donc », très important, « allez donc » est un trait d'union entre ce qui est dit avant et après. « Allez donc ». C'est une conclusion à l'autorité accordée à Jésus qui place toute la puissance et l'autorité derrière le mandat de l'évangélisation, de la mission. Quand Jésus envoie ses disciples que nous sommes en mission et qui dit « allez donc », ça veut dire « je vous donne l'autorité et le pouvoir que j'ai et vous pouvez faire la même chose que moi ». Amen. C'est ce qui s'est passé avec les 12 quand il les a envoyés. Ah, ils sont revenus, ils disent mais Seigneur, c'est fou quoi. Tout nous est soumis, tous les démons nous ont soumis quoi. Il dit bah oui. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Quand il envoie les 70 ou les 72, bah c'est les nations, c'est pareil, c'est la même chose. Ils s'en vont, tous les malades sont guéris, tous les etc. Ouais. Pourquoi? C'est pas à cause de leur piété. Pas à cause de la qualité de leur vie chrétienne, c'est à cause du pouvoir et de l'autorité qu'ils ont reçu de Jésus. Quand il est parti, il leur a donné cette autorité. Donc partons, non pas voilà, comme ça, à l'aventure, je vais évangéliser. Non, partons en sachant que c'est un ordre et que nous sommes accompagnés de l'autorité et de la puissance de Jésus. Amen. Et quand nous faisons quelque chose dans cet ordre d'évangélisation, nous le fassions avec cette conscience. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, vous voyez. Mais que vous soyez dedans. Alors il y a des techniques. Hein. Il y en a qui disent, ah oui, il faut dire au nom de Jésus-Christ. Parce que si vous ne dites pas Jésus-Christ, ça veut dire que les démons, ils savent que ce n'est pas le bon Jésus, le Jésus de Nazareth. Alors il y en a qui font Jésus de Nazareth. Vous voyez, toutes les techniques qui fusent. Vous voyez, tout ça pour avoir l'autorité et la puissance, non? Mais ça, c'est le monde chrétien. Hein. On veut remplacer l'authenticité par du fake. Du faux. Ça, c'est l'ennemi qui est derrière. Voilà. Non, non. Le mandat, c'est le mandat. Allez donc, sous-entend, qu'il était autrefois impossible de le faire, mais maintenant, c'est une réalité glorieuse pour les enfants de Dieu, pour l'Église, que d'accomplir cette mission avec l'autorité et la puissance de Jésus. Il faut simplement obéir dans la simplicité et dans l'humilité. Le christianisme est une foi missionnaire, une foi de personnes envoyées, missionnaires envoyées, car la nature même de Dieu et son amour, sa volonté, c'est d'envoyer, de donner, pour qu'aucun être périsse. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Troisième règle. Troisième règle d'or de la mission, c'est quoi? C'est toujours dans le passage qu'on a lu, hein, Matthieu 28. Quelle est la troisième règle qui est issue de la parole? Je renvoie à moi, au moins famille de Michel, à Daloum, observation du texte, description. Et c'est juste laisser la parole vous interpeller. Dernière règle d'or qui sort de ce passage de Jésus aux disciples. Allô? Si? Pardon? La mission? Alors la mission, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la première règle de la mission, c'est avoir une passion pour Jésus, ce qui nous donne la passion pour les âmes, et pas l'inverse. C'est d'être conscient de l'autorité et du pouvoir de Jésus. Et la troisième... Non. Lisez bien les versets et vous verrez qu'il dit « faites des disciples ». Faites des disciples. Donc la mission, c'est faire des disciples. Ah, il a dit faire des disciples. Faites des disciples. Et sous-entendu, alors là je renvoie à la nouvelle réforme apostolique, ceux qui connaissent, qui est une hérésie, désolé pour ceux qui y croient, c'est dans cette troisième règle d'or. Comme quoi il faut bien connaître les règles de base, parce que ça vous aide dans votre vie chrétienne à discerner quand l'ennemi fait dévier l'Église et celle qui fait garder l'Église dans le droit chemin. Dans le droit chemin, c'est fait des disciples. Et vous pouvez le noter, il ne dit pas christianiser la société. Eh oui. Parce qu'aujourd'hui, une réforme qui se prétend être une réforme supérieure à celle du XVIe siècle, disent il faut christianiser la société. Ben, c'est pas marqué. Hello? Ça revient même. Ah bah. Ah bah Marie-France, je t'envoie à des lectures édifiantes sur la christianisation de la société. La christianisation de la société consiste à dire un chrétien doit prendre toutes les manettes de la société qui dirige la société. Ah non, 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 oui, mais c'est ce qu'il dit. Hein, il faut devenir il faut qu'un chrétien il monte à la tête de la politique, il monte à la tête des arts. Hollywood. Il faut qu'il monte à la tête de la société partout, dans tous les domaines. Et il y a, soi-disant, 7 clés. L'enseignement des enfants, enfin, culture, etc. 7 clés. Pour certains, il y en a 10 ou 12, mais ils ont réduit à 7. C'est tout un enseignement qui existe depuis 50 ans. Hein. C'est pas nouveau. C'est quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Et qui dit il faut christianiser la société pour préparer le retour de Jésus. Parce que Jésus a besoin d'avoir une épouse qui est bien quoi, voilà. Enfin tout ça c'est des élucubrations, mais n'empêche qu'il y a des millions et des millions de chrétiens évangéliques qui y croient. Je rappelle que Jésus, c'est pour ça que c'est important d'avoir des règles d'or, voyez, et d'avoir des choses importantes, parce que sinon, vous voyez, on est perdu, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la mission. Non, la mission c'est alors la passion pour Jésus, alors l'autorité au nom de Jésus, être conscient, et de faire des disciples. Alors, faire des disciples, ça veut dire faire des disciples. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Un disciple, il n'est pas... Si Ruben est un disciple et Rémi est un disciple, ben lui, il n'est pas maître de... Il n'est pas le maître de Rémi. Rémi n'est pas le maître. C'est ça que ça veut dire déjà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les disciples. Il y a tout un tas de conséquences quand on réfléchit au mot disciple. Le disciple n'a qu'un maître, il n'y a qu'un seul maître, c'est Jésus. Jésus n'a qu'une église, c'est une église de tous les temps. Ben oui, mais encore faut-il le dire, faut-il le vivre. Mais il y a des choses élémentaires qu'aujourd'hui on oublie, et du coup on rentre dans le mur, quoi. Et c'est temps de savoir. Bon. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui obéit à un maître. Il regarde devant, il ne regarde pas à côté. Si le disciple à côté de lui déraille, bon ben c'est pas son problème maintenant, avec gentillesse, avec amour et tout ça, il doit essayer de l'aider, bon c'est tout. Mais il n'a pas de le contrôler. Voyez-vous ? Un disciple ne contrôle pas. À la limite, c'est le maître qui peut contrôler, mais justement, c'est le maître qui ne contrôle pas. C'est les disciples qui contrôlent. Le maître, il aime le disciple. Et il veut lui transmettre ce qui est de meilleur. Voyez ? Enfin, bon, je ferme la parenthèse. Pour dire que cette troisième règle, c'est de faire des disciples et pas de christianiser la société. Vous verrez que tous ceux qui parlent de christianisation de la société, ils prennent quel verset? Toujours le même. Genèse 1, 27. Vous connaissez Genèse 1, 27? Toujours le même. Comme si c'était une clé, voilà, qui explique tout. Voilà, on a découvert une révélation. Genèse 27, dominer sur toute la création. Voilà. Je suis désolé. Ça a été dit avant la chute. Ok? Donc prendre un verset avant la chute pour l'appliquer aujourd'hui à la chute, parce que après Genèse 27, il y a Genèse 3. Où Jésus maudit, Dieu maudit, pardon, la création, etc. Elle dit, la femme souffrira, l'homme, il y aura des ronds, des épines, etc., il faudra le labeur, etc. Celui qui va changer tout ça, c'est Jésus. C'est pas nous. Nous, on était chrétiens. on n'est pas des Superman qui devons dominer les choses. Nous devons respecter la nature, nous devons respecter les choses. Mais nous n'avons plus cette autorité, nous l'avons perdue, nous l'avons donnée à Satan. Okay? Jésus, c'est le seul qui l'a récupéré, l'autorité. Et un jour, il va nous la donner pour vivre seul. Mais ce jour n'est pas arrivé. Il y en a qui ont vu Jésus qui est revenu? Je n'ai pas vu. Bon, donc, ça veut dire que ce verset-là ne s'applique pas dans ce contexte-là. Voyez, le cœur de cette mission, c'est cette introduction de faire des disciples. C'est un impératif qui comporte un ordre qui doit être mis en pratique. Encore faut-il ne pas dévier l'objectif de ce commandement. Remarquez que Jésus-Christ nous ordonne de concentrer toute notre attention sur la conversion des hommes et des femmes, et non de christianiser la société. La conversion, c'est la métanoïa. Conversion, repentance, métanoïa. Ça veut dire quoi, métanoïa, Elsa? Toi qui l'enseignes dans le TQP. Bah oui, la métanoïa. Vous trouverez ça dans tout le Nouveau Testament. Il faut vivre une métanoïa. C'est-à-dire un changement de pensée. Changer de pensée. Romains 13, 1, etc. Changer de pensée. Nous avons une façon de penser qui vient de notre nature, et nous avons une autre façon de penser, c'est celle qui vient de l'esprit, marcher par l'esprit, et qui nous donne une. Et entre deux, il y a la repentance. Il faut se repentir de penser comme nous pensons naturellement, et d'adopter une nouvelle façon de penser. Donc la conversion des hommes, c'est nous devons amener les hommes à une métanoïa, un changement de pensée. C'est ça notre rôle de disciple, pour amener d'autres, et non pas de christianiser la société. Parce que si nous christianisons la société, si nous voulons christianiser la société, il y a une chose qui arrive, c'est quoi? Un chrétien qui monte dans le pouvoir politique, par exemple, qu'est-ce qui va arriver, Tom? Qu'est-ce qui va arriver? Ah oui, il va être corrompu. Voilà. Cette semaine, là, il y a Florence et puis Samuel qui ont un ami, peut-être toi aussi, Obed. Un peu moins, voilà. Bah, il a passé à la maison, puis on a discuté de choses et d'autres. Et puis Florence, je ne sais pas qui, a demandé, mais tiens, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Il était dans la politique. Et je ne sais pas à quel niveau était un politique, mais apparemment, c'est pas. Voilà. Il avait une certaine ambition politique. Et il a dit, ah non, j'ai changé. Ah bon, t'as changé? T'es où là? Ah, je suis dans. Voilà, je sers dans une église. Voilà, un pasteur opérationnel. Dans quelle église? Ah ben, il y a combien de personnes dans ton église? Ah, il y a 130 staff, de gens salariés, quoi. Ah bon, c'est pas n'importe qui. Voilà. Et à New York. Et en fait, c'est l'église de Timothy Keller que j'aime bien parce qu'il m'a beaucoup influencé. Il y a tous les livres en français, je vous signale, de Timothy Keller. Et il était là, il dit, mais pourquoi t'as changé? Il dit, parce que mon mentor que j'ai suivi, mais de toute façon, la politique, si tu continues, il n'y a qu'une seule chose qui importe dans la politique, c'est le pouvoir et l'argent. C'est toi de décider. Mais, alors, tu peux utiliser quelqu'un. Mais si vous voulez faire de la politique par vos propres forces, vous serez pris dans le carcan du pouvoir et de l'argent. Donc, effectivement, si on veut christianiser la société, eh ben, vous suivez Trump, hein, vous avez gagné. Hein. Vous entrez dans la corruption, dans tout ce que vous voulez, etc. Parce que c'est Jésus qui va diriger un jour la société. C'est Jésus qui va, quand il va venir sur le mont des Oliviers, et qui va régner sur la terre, parce que son père va lui donner l'autorité de régner sur la terre transformée, qui ne sera pas corrompu, puisque Satan n'a pas pu le corrompre. Le test a été fait. Mais nous avons une racine en nous, et beaucoup de racines, qui font qu'à un moment donné, ça va se dévier, sans même que nous nous en apercevions. Donc, faisons des disciples. Faisons des disciples. Soyons nous-mêmes des disciples. Soyons nous-mêmes obéissants à la parole. Et là, il y a du grain à moudre, hein. Il y a des choses à faire. Hein. Nous ne sommes pas encore arrivés à obéir à tout ce que Jésus nous a dit. Donc, ça, c'est la mission que Jésus a donnée à ses disciples et à nous. non pas de dominer le monde en établissant le royaume de Dieu maintenant sur la terre, ce sera un jour, mais de faire des disciples. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et la séparation du disciple de l'esprit du monde a pour but de séparer ceux qui, dans l'Église, pêchent et refusent de se repentir. C'est pour ça, déjà, ça commence dans l'Église. Et je suis conscient de ça. Si dans l'Église, nous n'appliquons pas ce principe, nous sommes comme dans le monde. Si dans l'Église, il y en a qui pêchent, et nous pêchons tous, mais qui ne se repentent pas, eh bien le ver est dans le fruit, et ça va détruire l'Église. C'est pour ça que la repentance est à la base d'une société saine. Une société saine. D'un couple sain, d'une famille saine, d'une communauté saine, d'un groupe sain, et la repentance. Parce que nous avons tout le temps besoin de nous repentir, de changer de mentalité, de changer de façon de voir les choses, de remettre les priorités en avant. Et alors, c'est ça qui va nous garder, c'est l'humilité. Donc la séparation du disciple de l'esprit du monde a pour but de séparer dans l'Église ceux qui pêchent et qui refusent de se repentir, de séparer les faux docteurs d'Église et de sectes qui enseignent les erreurs doctrinales, ou renier les vérités fondamentales de la Bible. Le but de la séparation, c'est pour persévérer dans le travail du salut. Travaillez votre salut, Philippiens 2:12. Car c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Et ça, ça illustre ce modèle de pensée. Travaillez votre mission, car c'est Dieu qui va mettre en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui fait aboutir. C'est Dieu qui a rendu la gloire pour toujours. Mais nous, notre discipulat consiste à faire des disciples dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Un disciple, c'est une vie consacrée, entièrement consacrée à son maître. Le disciple cherche ensuite la communion des vrais chrétiens, de ceux qui, comme lui, ont le même ADN. Qui cherche, parce qu'on a besoin d'être encouragé, on a besoin de se soutenir. Ce n'est pas facile. L'Église a dévié de tout temps. On critique l'Église catholique, mais toute Église a en elle-même la capacité de dévier. On a besoin de se reprendre les uns les autres dans l'amour pour regarder tous dans la même direction. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et qu'il nous aide à appliquer ces règles d'or de la mission qui est de notre responsabilité et Dieu va faire le reste. Dieu ne peut pas nous obliger à faire la mission, mais il nous invite à rentrer dedans comme Jésus y est rentré, Jésus homme, accepter la mission. Nous, en tant qu'hommes, on est sollicités par la mission et les règles d'or, c'est la passion pour Jésus, l'autorité et le pouvoir de Jésus dans tout ce que nous faisons dans le cadre de l'évangélisation, donc annoncer la bonne nouvelle, et de faire des disciples. Et pour cela, nous devons nous-mêmes nous appliquer à faire, à être des disciples. Amen. Seigneur, aide-nous. Tu vois, nous sommes faibles, nous sommes tentés de toutes sortes de tentations, de toutes sortes de choses qui nous font dévier. Mais Seigneur, donne-nous un cœur qui accepte d'être remis en question, une métanoïa. Que, Seigneur, toute notre vie, et pour ce qui me concerne, que toute ma vie, je puisse accepter d'être remis en question. Pour que, Seigneur, il n'y a aucun grain, aucune semence de séduction qui puisse venir. Et si elle vient, qu'elle puisse être arrachée par la repentance. Seigneur, c'est grâce à cela que nous pouvons être disciples de celui qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. Et Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Seigneur, nous te bénissons dans le nom de Jésus.